À Port-au-Prince, c'est le journal d'Haïti et des Amériques présenté par Michael Ponge. Bonjour Michael.
Bonjour Marion, merci. Ils décrivent l'enfer et dénoncent les coups et autres brimades subies. Témoignages d'Haïtiens aujourd'hui récemment expulsés de République dominicaine. Et notre invité, représentant du GAR, ONG, qui intervient auprès de ces hommes et femmes traumatisés. On revient aussi évidemment sur la majorité démocrate renforcée aux États-Unis après la sénatoriale de Géorgie, Cristina Kirchner, la vice-présidente argentine condamnée pour corruption. Et puis le journal de la première avec le dossier chlordécone qui fait encore la une, Benoît Ferrand.
Et oui, l'éventualité d'un non-lieu dans cette affaire d'empoisonnement de toute une population continue à susciter l'indignation aux Antilles. Des rassemblements de protestation sont d'ailleurs prévus ce samedi en Martinique et en Guadeloupe.
On en parle dans une quinzaine de minutes ensemble. Bienvenue à tous.
RFI à Saint-Domingue, 90.9 FM.
L'ONU, par la voix de son haut commissaire aux droits de l'homme, s'en est ému le mois dernier, appelant Saint-Domingue à arrêter les renvois forcés d'Haïtiens. Mais force est de constater que cet appel est resté lettre morte. À tour de bras, la République dominicaine renvoie en Haïti manu militari, femmes, hommes et enfants qui se trouvent sur son sol en défendant, en matière de politique migratoire, sa souveraineté territoriale. De septembre à courant novembre, ils sont ainsi plus de 56 300 Haïtiens à avoir été expulsé du territoire dominicain. Comme cet homme qui a confié son témoignage au micro RFI de Rosemary Matt Janis. On l'écoute et on retrouve pour en parler ensuite notre invité.
Les forces de l'ordre m'ont arrêté et emprisonné. J'ai laissé Haïti à cause de la misère, mais en République dominicaine, j'ai connu le pire. C'est de la souffrance. On fuit les maisons où l'on vit pour se cacher dans les bois. On a tout perdu. Les agents m'ont frappé si fort que j'ai dû me rendre à l'hôpital.
Bonjour, Carl-Henri Petitfrère.
Bonjour.
Vous êtes un des coordonnateurs du GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, le GAR qui nous donne ce chiffre de plus de 56 000 expulsions. Ce témoignage que l'on vient d'entendre, est-ce que c'est un cas isolé ou bien il reflète ce que vous constatez, vous, le GAR, sur le terrain? Je précise que vous intervenez notamment au niveau de la ville frontalière de Bel-Ader.
Alors, on a beaucoup d'Haïtiens qui sont rapatriés, mais aujourd'hui, cela se fait de façon bizarre. Parce que les gens sont pris de force dans leur maison. Et on a eu des cas de femmes avec des enfants qui ont été à nos bureaux au niveau de Bel-Ader. Donc, cet homme qui vient de dire qu'il a été tabassé, c'est pas un cas isolé, car cela arrive à beaucoup de gens. Et malheureusement, il n'y a pas que les personnes en situation irrégulière, car il y a des gens qui ont leur passeport, leur visa, et qui malheureusement étaient aussi victimes et mis dans les cages.
Oui, alors justement, je vous propose d'écouter un autre témoignage d'un autre Haïtien récemment expulsé.
Je m'appelle Junior, je vivais à Las Américas, en République dominicaine. Alors que je travaillais, les agents de la migration m'ont demandé de leur montrer mes papiers. Quand je les ai sortis, ils les ont déchirés. Ils m'ont embarqué et m'ont conduit au commissariat. Arrivé au commissariat, j'ai voulu comprendre ce qui se passait et je leur ai demandé pourquoi ils m'avaient arrêté. L'un d'eux m'a répondu que j'étais haïtien et que je ne pouvais rien réclamer. L'autre m'a frappé au niveau de la bouche avec son arme. J'ai perdu 8 dents. J'ai laissé ma famille en République dominicaine qui ne sait pas où je suis.
Carl-Henri Petitfrère, ce témoignage, il corrobore ce que vous venez de nous dire. Des Haïtiens qui ont des papiers, comme cet homme, qui travaillent, Saint-Domingue n'en tient pas compte et expulse quand même.
En fait, c'est la réalité d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est une chasse aux sorcières. Donc, une fois que vous êtes Haïtien et particulièrement noir, vous êtes en but à des rapatriements, des expulsions. Donc, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a cette haine qui remonte à la surface, qui ressurgit, car il y a très longtemps déjà, il y avait un massacre des Haïtiens. Et malheureusement, le gouvernement dominicain, je dirais une grande partie, juste pour plaire à l'oligarchie dominicaine qui est anti-haïtienne. Donc, il y a ce message qui est véhiculé aujourd'hui, même dans l'opinion publique dominicaine. Donc, on sent qu'il y a une certaine haine à l'endroit des Haïtiens. Donc c'est quelque chose qui arrive tous les jours, les gens sont battus, maltraités et mis en prison sans qu'ils aient à répondre à des questions.
Parmi lesquelles, vous le mentionniez, des femmes enceintes parfois, plus de 6000 enfants hein, aussi, qui ont été, pour certains, séparés de force de leurs parents.
Oui, je dirais que le nombre a augmenté. Au niveau de notre bureau à Bilader, nous recevons des femmes enceintes, donc à qui nous prodiguons un certain support quand nous pouvons, en fonction de nos ressources. Mais il y a des femmes aussi accompagnées de leurs enfants. Donc il y a des maris qui ont été de l'autre côté, qui ont leurs papiers, qui normalement peuvent opérer normalement. S'ils ne sont pas pris de force par les soldats dominicains, ils ont été obligés de traverser la frontière, de venir à nos bureaux pour plus ou moins récupérer leur famille qui était en attente d'avoir les papiers pour pouvoir être opérationnels au niveau de la République dominicaine. Et malheureusement, ils ne pourront plus entrer et ils sont obligés de trouver un certain support pour qu'ils puissent aller dans leur ville d'origine au niveau d'Haïti.
Et justement, c'est ce sur quoi vous les aidez, sur quoi le GAR travaille auprès de ces personnes ?
Bon, normalement, on n'a pas beaucoup de ressources. On est une organisation locale qui fonctionne à partir de subventions donc, qui nous sont données de la part de partenaires financiers. Mais avec le peu que l'on a, on essaye de donner, par exemple, à manger parce que les gens arrivent, ils ont été en prison pendant 2 ou 3 jours, incarcérés dans des centres. Ils n'ont pas eu à manger, ils dorment à même le sol. On leur donne les moyens de se trouver un espace temporaire où se loger et ensuite ils vont pouvoir se rendre chez eux avec aussi des frais que l'on peut donner. Donc, pour qu'ils puissent payer le voyage. Et en même temps, s'il y a certains qui sont malades ou qui ont été frappés, on a pu faciliter l'accès à un centre de santé pour qu'ils puissent être traités donc avant de partir.
Mais est-ce que face à ces expulsions massives qui continuent, comme vous le dites, vous avez suffisamment de moyens pour faire face et pour aider toutes ces personnes ou pas ?
Pas du tout. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que les ressources sont maigres. Mais là, on a besoin vraiment de plus de ressources, de plus de partenaires financiers. Et ce qui arrive aussi, c'est que nous avons besoin de renforcer notre staff parce que nous avons besoin de gens qui peuvent accompagner, appuyer les gens. C'est-à-dire, s'ils ont des problèmes, je dirais, de trauma, parce que vivre cela, ce n'est pas facile. Laisser sa maison, fuir dans les bois, on n'a pas forcément toute cette expertise au niveau de GAR. On fait le plaidoyer, on donne le support matériel, mais on a aussi besoin de psychologues, de travailleurs sociaux qui puissent accompagner ces gens. Et quand ils arrivent chez nous, donc il y a des exigences qui nous sont faites et auxquelles on ne peut pas vraiment répondre. Mais on essaye au maximum d'aider.
Donc c'est un appel à l'aide, entre guillemets, que vous lancez auprès d'autres ONG qui travaillent déjà en Haïti, qui sont installées. Appel à l'aide, à venir vous prêter main forte et à apporter une assistance que vous ne pouvez pas apporter. C'est bien ça.
Voilà, c'est-à-dire quand il y a de ces crises humanitaires qui prévalent au niveau d'un pays, donc les organisations peuvent avoir cette flexibilité pour changer plus ou moins leur orientation. Donc ils peuvent aussi voir comment, en fonction de notre expertise et de notre travail au niveau de la frontière, nous donner un certain support pour pouvoir apporter de l'aide à ces gens. Donc c'est un appel aussi au gouvernement haïtien parce qu'en fait, le gouvernement haïtien ne s'est pas prononcé sur cette situation et il est temps que l'on entende ce qui va se faire à ce niveau-là, en même temps qu'on réclame ou bien qu'on demande aux partenaires financiers de nous donner un certain support.
Oui, le gouvernement haïtien qui, pour l'instant, a seulement dit qu'il déplorait cette situation, vous appelez aujourd'hui à ce qu'il intervienne de manière plus forte, qu'il fasse valoir l'intérêt des Haïtiens auprès du gouvernement dominicain.
Bien sûr, mais aussi les gens qui sont des laissés pour compte. Quand ils traversent la frontière, ils pourraient trouver un meilleur soutien, parce qu'en fait, le GAR, qui est juste une organisation avec juste quelques petits bureaux au niveau de la frontière, ne peut pas assumer toute cette responsabilité. Donc, l'État doit s'assurer d'être redevable, mais aussi de protéger ses citoyens. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est dirigeant, on est des autorités, on ne peut pas uniquement déplorer ou aller sur Twitter, on ne dirige pas comme cela. Donc, on doit pouvoir voir donc concrètement des actions qui se pose au niveau de la frontière, puisque les migrants continuent à être déportés malgré l'appel des Nations Unies, malgré l'appel d'autres institutions de la société civile qui disent que c'est inacceptable que les gens soient traités dans toute cette indignité.
Et à ce titre, vous demandez des sanctions, peut-être aussi contre la République dominicaine au niveau international ?
Je l'avais demandé la dernière fois, j'ai continué à le faire dans d'autres médias et je vais réitérer cette demande. Il faut que la CARICOM, dont fait partie la République dominicaine, Haïti, les Nations Unies, puisque la République dominicaine est censée être redevable aussi par rapport aux instruments internationaux. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions. On a besoin que la République dominicaine fasse face à ses responsabilités pour pouvoir répondre de façon systématique à cette violence qui se fait pour que cela puisse s'amoindrir et pourquoi pas être éliminé au final.
Et Karl-Henri Petit Frère du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés ONG haïtienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Poursuivons sur ce sujet avec vous, Harim Lipold, bonjour.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Puisque vous nous parlez de la difficulté des Haïtiens à trouver des logements abordables en République dominicaine, c'est un reportage publié par nos confrères d'Aïb au Poste.
Oui, c'est logé en République dominicaine devient un vrai casse-tête pour les Haïtiens, titre le site d'information. L'offre est réduite et la demande ne cesse d'augmenter. Conséquence, les prix aussi, surtout pour les Haïtiens. Le contrat de bail qu'on leur propose contient plus d'exigences que celui des Dominicains. Par exemple, la valeur du dépôt de garantie qu'ils doivent verser est plus élevée, écrit Aïb au Poste, qui a recueilli plusieurs témoignages, dont celui de WL qui préfère rester anonyme. Il paye 400 $ américains de loyer par mois, dit-il. Vivre ici me revient bien plus cher que si je louais une maison en Haïti, explique-t-il au journal en ligne. Lui et d'autres Haïtiens estiment que les propriétaires et les avocats dominicains profitent du statut des Haïtiens pour leur soutirer plus d'argent. Ils savent que beaucoup sont illégaux. Ils ne voudront donc pas revendiquer leurs droits. Mais il y a aussi des Haïtiens et qui exploitent la situation précaire de leurs compatriotes. Comme il est difficile de trouver un logement dans certaines zones, eh bien certains louent des chambres dans leur appartement au prix fort, presque la totalité de ce que coûte l'habitation. C'est un reportage à lire dans Aïb au Poste.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
10h21 en Argentine, nouvelle escale, 6 ans de prison et l'inéligibilité à vie. C'est la peine dont a écopé hier Cristina Kirchner, l'actuelle vice-présidente argentine, reconnue coupable de fraude et de corruption quand elle était à la tête du pays entre 2007 et 2015. Une condamnation vécue comme une injustice par ses partisans, dont certains se sont rassemblés devant le tribunal au moment du verdict à Buenos Aires. Théo Conscience était parmi eux.
Il est un peu plus de 17h30 à Buenos Aires hier quand le verdict tombe. Cristina Kirchner est condamnée à 6 ans de prison et à l'inéligibilité à vie pour fraude et corruption. Ce n'est pas une surprise, mais ça reste un coup de massue, souffle Mabel Navarro. Protégée par son immunité parlementaire, Cristina Kirchner reste libre, mais Silvia Flores, membre des maires de la place de Mai, ne décolère pas.
C'est une injustice parce qu'elle est innocente et que cette affaire a été montée de toutes pièces. Il n'y a aucune preuve.
Quelques instants plus tard, la vice-présidente argentine prend la parole en direct sur les réseaux sociaux et dénonce une persécution politico-judiciaire.
Ceci est un état parallèle et une mafia judiciaire.
Après avoir annoncé qu'elle fera appel de sa condamnation, Cristina Kirchner accuse les juges de collusion avec ses adversaires politiques. Violeta Lechaga, professeure à la retraite et francophone, se dit inquiète pour le futur.
Ce sont les juges qui ont maintenant le pouvoir. C'est la même chose qui s'est passée au Brésil et c'est la démocratie qui est en danger.
Mais contrairement à Lula, réélu à la tête du Brésil fin octobre, Cristina Kirchner a annoncé qu'elle ne sera pas candidate aux élections présidentielles et législatives de 2023. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Harim, que pense la presse de ce jugement ?
Jugement historique, titre le journal Clarín, un jugement qui marque le début d'une nouvelle ère et aura d'importantes conséquences judiciaires et politiques, ajoute le journal de Buenos Aires. Un événement capital dans l'histoire de la démocratie argentine, renchérit La Nación. Trois juges ont créé un précédent. Il ne peut y avoir d'impunité pour la corruption, même si c'est la personne la plus puissante du pays qui est accusée. Le quotidien Paginados a mis en une la réaction de Cristina Kirchner. C'est l'État parallèle et la mafia qui sont responsables de ma condamnation, a-t-elle déclaré, on vient de l'entendre, dans un message vidéo avant d'ajouter qu'elle ne sera candidate à rien. Ils veulent me voir en prison ou morte, a-t-elle conclu son intervention, des propos également repris par Paginados. Et d'après le journal uruguayen El Observador, eh bien, il est toutefois très peu probable que Cristina Kirchner se retrouve un jour en prison. Il reste plusieurs recours possibles, ce qui fait que la sentence, eh bien, elle ne sera pas effective avant quelques années.
Enfin, Harim, les quatre mots les plus forts de la démocratie, ce n'est pas moi qui le dis.
It is my honor to utter the four most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken.
Le peuple a parlé, dixit Raphaël Warnock, sénateur démocrate sortant de l'État de Géorgie aux États-Unis, réélu hier au terme du second tour de l'élection sénatoriale qui offre au camp présidentiel une marge de manœuvre supplémentaire au Congrès de Washington. Les démocrates disposent à présent de 51 sièges au Sénat contre 49 pour les républicains. Et c'est abondamment commenté dans la presse américaine, Arim.
Oui, avec la victoire de Raphaël Warnock, la Géorgie devient définitivement un battleground state, écrit le quotidien local Atlanta Journal-Constitution, un État qui sera donc sévèrement disputé entre démocrates et républicains. Le New York Times considère la défaite de Herschel Walker surtout comme une claque pour l'ex-président Donald Trump. C'est lui qui avait demandé à son ami, l'ancien footballeur, de se porter candidat contre Raphaël Warnock. Peu importe que Walker ne soit pas une personnalité politique qui soit complètement inadapté à toute forme de fonction politique, écrit le New York Times. Ça n'avait même pas d'importance qu'ils ne vivent même pas en Géorgie. La célébrité, pensait Trump, compenserait tous les défauts. Mais cela n'a pas marché. La marque Trump n'a pas aidé son ami. Au contraire, l'ex-président est devenu toxique pour la plupart des candidats, estime le site Politico. Responsable local des Républicains, cité par le site d'information, avance un pronostic osé. Michael, on se souviendra peut-être de la Géorgie comme de l'État qui a brisé Trump une fois pour toutes.
En tout cas, c'est avec cette défaite républicaine et cette victoire démocrate que se referme la séquence des midterms aux États-Unis. Merci beaucoup, Arim.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
L'éventualité d'un non-lieu dans l'affaire du chlordécone continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive aux Antilles.
Et oui, des rassemblements de protestations sont d'ailleurs prévus ce samedi en Martinique et en Guadeloupe. Par ailleurs, un recours a été déposé pour contester la notion de prescription dans cette accusation d'empoisonnement de toute une population. Explication Christelle Martial, la première Guadeloupe.
D'abord, et selon le texte déposé, parce que cette infraction est intemporelle et qu'elle se poursuit encore aujourd'hui. Autre raison de contester la prescription, le fait que l'empoisonnement ait été caché au grand public, alors même que la toxicité du pesticide était bel et bien connue des autorités. Il y aurait donc eu manœuvre pour cacher la vérité. Selon les avocats des associations, la prescription de l'action publique peut être suspendue dans ce cas de figure, comme elle l'a été dans d'autres affaires. Des manœuvres jugées frauduleuses pour cacher la vérité, la disparition de certaines pièces du dossier ou de preuves, ou encore le retard de publication de certains rapports. Autant d'obstacles qui n'ont pas permis aux plaignants d'entamer une action en justice avant 2005, un an après la révélation publique de ce scandale sanitaire. En clair, la prescription ne peut s'appliquer à une victime qui ignore qu'elle est victime. Il était donc impossible aux Guadeloupéens et aux Martiniquais de saisir la justice avant même que l'action ne soit née. Aussi, conclut cette requête, il ne peut être reproché aux parties civiles d'avoir tardé à déposer plainte. C'était en 2006.
Direction maintenant la Martinique, où la montagne Pelée est entrée en éruption ce matin. Pas de panique, il s'agit d'un exercice. Un exercice d'évaluation du plan d'évacuation récemment validé par la préfecture. Denis Adnet-Louvet.
C'est ce plan hors sec qui sera évalué à travers une vaste répétition aujourd'hui. De 7 à 17 heures, l'ensemble des acteurs de terrain pressentis pour intervenir sont mobilisés. L'axe d'intervention qui sera plus particulièrement évalué, c'est l'évacuation des populations. Deux communes du Nord ont été ciblées pour l'occasion, le Morne-Vert et le Lorrain. Des centaines d'habitants seront transférés loin de la zone rouge, en l'occurrence vers des centres d'hébergement, du François, mais aussi des Anses d'Arlée. Dans le même temps, d'autres communes qui ne seront pas impliquées dans cet exercice d'évacuation vont quand même activer et tester leur plan communal de sauvegarde. Aussi, si vous entendez hurler des sirènes, pas de panique, elles seront déclenchées uniquement dans le cadre de cet exercice.
Rappelons, Michael, que la montagne Pelée, qui a détruit la ville de Saint-Pierre en 1902, est un volcan toujours actif. Sa dernière éruption remonte à 1932. Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver sur RFI.fr et sur toutes les applications de podcast. Bonne journée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.